Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
On a un grand cépage en Alsace.
Riesling.
Un autre.
Sylvaner.
On a le Sylvaner. Ça c'est personne ne l'a. Personne ne nous l'envie malheureusement. Mais alors quel grand cépage quoi.
J'ai l'impression que la nature lui a redonné, ce cran nature lui a redonné un souffle.
Mais on peut en faire ce qu'on veut en plus. On peut faire un vin facile, léger, très variétal. On peut en faire un vin de terroir, on peut en faire un vin en surmaturité même si on veut.
Bienvenue sur le podcast du raisin et des papilles, le podcast qui vous parle du vin et de l'art de vivre en Alsace. Le bon vin, celui que tu bois avec tes copains, celui qui te donne des émotions. Vous aurez aussi nos coups de gueule et nos coups de cœur.
Ouh là là.
On va faire le trou normand, le calvadis sous les graisses, l'estomac creuse et il n'y a plus qu'à continuer.
Ah bon?
Voilà, monsieur.
Oui, mais comment on boit ça?
Du sec.
Allez.
Moi, c'est Mika.
Moi, c'est Adrien.
Bienvenue dans cet épisode de Raisin et des Papilles.
Bienvenue dans cet épisode du Raisin et des Papilles. Il est tôt. On n'est pas encore chauffé. Hein. Il pleut un petit peu, le ciel est encore un peu gris, mais il paraît que ça va s'ouvrir. On est dans un des villages les plus anciens d'Alsace, qui a l'une des églises les plus anciennes d'Alsace. Ça c'est pour le tourisme, donc il s'appelle Rosheim, parce que tout le monde ne sait pas forcément où c'est Rosheim. Salut Adrien, comment tu vas?
Salut Mickaël, ça va super bien.
Alors, si je te dis utopie, anarchie, si je te dis Applica, tu me dis...
Julien Albertus.
Salut. Ouais, tout va bien, ouais.
Bah justement, on parlait de l'actualité tout à l'heure en off. Peut-être un petit peu avec ces histoires de gel. Alors, on pense évidemment à tous ces vignerons et tous ces agriculteurs qui ont été frappés par le gel. Est-ce que toi, tu as souffert un petit peu?
On a un tout petit peu eu de dégâts sur Rosheim, sur les gewürztes et muscats. Il y a 30-50% qui ont gelé. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 30-50% de pertes, mais c'est toujours ça qu'il y aura en moins. Et pas Molsheim, voilà, parce qu'on a le vignoble sur Rosheim et Molsheim. Et un peu plus au nord, ça n'a pas gelé du tout. Certainement dû au fait que Rosheim est plus précoce, c'est terre plus légère, qui se réchauffe plus vite, donc les bourgeons étaient un peu plus sortis, et puis c'est des terroirs qui ont tendance à être un peu plus sud, donc les gelées liées au soleil levant, là on les prend un peu plus dans la face.
3-4 bourgeons qui gèlent, les autres vont produire un peu plus mécaniquement, ou c'est pas aussi simple que ça?
C'est possible. C'est possible, il y a plein de paramètres en fait qui rentrent en compte. Déjà la capacité au pied de pouvoir compenser, certains cépages le font mieux que d'autres. Il y a le contre-bourgeon qui peut être aussi fructifère, là encore une fois c'est une question de cépage. Et puis après il y a aussi la capacité du pied à donc dans ses réserves, sa vitalité, les conditions climatiques du millésime aussi. Si forcément on est sur une bonne floraison, la compensation peut être bonne aussi. Si on a de l'eau au bon moment, la compensation peut être bonne, meilleure en tout cas. Et donc voilà, donc il y a plein de choses qui entrent en compte. Donc c'est difficile de dire exactement ce qu'il peut y avoir comme perte précisément. Quoi. On le saura le jour des vendanges.
Alors justement, on est du côté de Rosheim. Parle-nous un petit peu de ton vignoble.
Alors Kumpfemeyer, c'est 15 hectares à peu près en production, répartis sur deux bancs, celui de Rosheim Rosenwiller et celui de Molsheim. On a à peu près moitié-moitié sur l'un et l'autre. On a majoritairement de l'Auxerrois qui est planté et puis suivent après les Riesling, Pinot Noir, Pinot Gewürz. Pinot gris et un peu de muscat et de chardonnay, voilà.
Auxerrois, parce qu'ils faisaient beaucoup de crémant à l'époque,
ouais,
c'était ça.
Ouais, ouais. Puis ici, localement, il y a beaucoup d'auxerrois plantés, quoi, parce que c'est une terre, il y a beaucoup de crémant qui était fait ici, historiquement, donc l'auxerrois était beaucoup utilisé là, pour ça, quoi.
Bah, qui es-tu, justement? Présente-nous un petit peu ton parcours. un peu ta carte de visite, pour ceux qui ne te connaissent pas.
Je suis petit-fils de vigneron du sud de la France. Même si je ne suis pas originaire du sud de la France, je suis lorrain. Donc là, il y a le mythe.
Au revoir.
Il y a le mythe qui s'effondre. Je suis mosellan, plus précisément, et petit-fils de vigneron, neveu de vigneron, dans le sud de la France, au domaine de la Réméjeanne, pour ceux qui connaissent, dans le Gard. Donc je pense que ma vocation est née de là, puisque à l'âge de 8 ans, je savais que je voulais faire vigneron. Et à 8 ans, tu sais pas pourquoi tu veux faire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a toujours été là, qui est toujours resté. Et donc, bah voilà, j'ai fait les études pour faire ça à Roufac en Alsace. Et puis, je suis parti 4 ans dans le sud de la France parce que c'était finalement, je rêvais de faire du Côte-du-Rhône. Et j'ai travaillé 4 ans au domaine de la Mordorèche avec Christophe Delorme. C'était une sacrée expérience parce que ça faisait à l'époque 60 hectares. On vendait 240 000 bouteilles sur réservation. On avait des 100 sur 100 chez Parker. Et puis, faut pas oublier que dans les années 2000, globalement, on buvait à peu près tous ça. Ouais. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris aux côtés de Christophe Delorme. Mais le sud de la France, c'est pas chez moi, quoi, en fait. Donc la culture, la météo, ne m'allait plus au bout de 4 ans. Et donc,
la pluie et le froid, tout me manquait.
Une météo sans vent, sans mistral, ça, déjà rien que ça. Et c'est pas une légende, le Mistral, je pense que si t'es pas né sous le Mistral, c'est compliqué à supporter, quoi. Et je suis remonté en Alsace, et puis j'ai fait, pendant un an, j'ai exercé le métier de caviste, donc j'ai vendu du vin en magasin. Et après, en fait, au bout d'un an, je pense qu'il fallait que je revienne à mon premier amour, et véritablement faire du vin. Et donc j'ai fait deux millésimes chez Valentin Zusselin. À Rochefort, qui est en biodynamie depuis 97, enfin une très très belle maison, où là j'ai beaucoup appris sur la viticulture bio, biodynamique forcément, mais sur le bien fondé de cette approche-là. Et puis en fin 2010, il y avait l'opportunité de diriger un domaine en fait, qui était le domaine Kumpfemeyer. Voilà. Et ça fait bientôt même plus que 10 ans que je suis là.
Donc ce domaine Kumpfmeyer existait déjà, et il n'était pas du tout en bio. C'est un peu toi qui as mis les conditions.
L'historique du domaine est aussi un peu singulière. C'est qu'à l'origine, c'est déjà une fusion de deux domaines. Donc le domaine Meyer de Rosenwiller et le domaine Kumpf de Molsheim. Donc ce qui explique pourquoi on a fait deux vignobles. Donc ils ont fusionné les deux domaines, créé la cave en 97 à Rosheim, là, actuellement où est le domaine, et ils ont fait du vin jusqu'en 2009. Et puis en 2009, voilà, ils ont divorcé. Philippe est parti faire un autre métier, et puis Sophie est restée sur le domaine, a repris la moitié qui appartenait à Philippe. Et il fallait à un moment donné que quelqu'un vienne aussi amener une direction nouvelle aussi sur le domaine. Donc c'est là où Sophie a fait appel à moi, et donc en décembre 2010, voilà, je suis arrivé. Donc la première condition quand je suis arrivé, c'était qu'on passe le domaine en bio. Le vin nature n'était pas forcément encore dans les esprits. C'était de passer en bio sans ajout de levure, sans ajout de soufre, et à la limite filtrer, sulfiter à la mise, mais pas avant, quoi. Et très vite, de toute façon, tu commences à goûter des choses qui te plaisent dans le monde du vin nature. Dans les années 2010-2011, il n'y avait pas non plus des tonnes en Alsace, mais pas très loin, il y avait Jean-Pierre Rich. Tu commences à goûter du Rich qui te plaît, tu te dis ça me plaît plus que quand c'est filtré sulfité, donc je pourrais peut-être y arriver aussi. Et puis même globalement, en fait, hein, tu demandes à la plupart des vignerons quand est-ce qu'ils préfèrent leur vin, c'est avant la mise en bouteille, donc avant d'avoir justement nouveau filtré sulfité. Et donc c'est presque dommage de se dire que c'est là que tu le préfères, c'est pas comme ça que tu le mets en bouteille. En général, c'est pour plein de raisons, hein, de marché, d'habitude, de tradition, de choses comme ça. Mais n'étant pas alsacien, j'ai pas le poids historique. Et pas le poids historique, pas le poids familial.
Donc... C'est un avantage.
Carrément, ouais, parce que tu vas plus vite dans ton cheminement et dans ton évolution. À partir déjà du millésime 2012, j'ai fait les premiers essais de vin nature. Donc c'était sur des rouges et les créments. On devait faire 2 barriques et puis on en a fait 10. Et puis c'était tout de suite très bon, en fait, meilleur. Et les clients sur les rouges avaient à l'époque été plutôt réactifs et avaient aimé ça, en fait. Parce que historiquement, on avait quand même une clientèle très très classique, très locale. Donc c'était pas si évident que ça pour.
Même localement, du coup, les rouges ont quand même plu à la clientèle historique.
Ouais, ouais, même localement, ouais. Voilà. Puis 2013, les premiers essais sur les blancs. 2014, tous les rouges, plusieurs cuvées de blanc, tous les créments, et puis 2016, toute la cave. Ouais, voilà. Donc, et puis ça correspondait aussi à une période nouvelle sur le monde du vin nature, où il y a toute une génération de vignerons dont je fais partie, sur les millésimes 2012-13, où on a commencé à faire du vin nature, hein, Catherine Ries, Geschicht, Philippe Brandt, Christophe Lindenhoop, on est nombreux, hein, Jean-Marc Dreyer aussi. Et finalement, le gros du en nombre, hein, de vignerons nature sur l'Alsace a commencé à en faire début des années 2010. Voilà.
C'est là où y a eu la première vague fin des années 90, début des années 2000. Et puis vous qui êtes arrivé, toute la panoplie là, les Durman, les etc.
Ouais, c'est ça. Donc on s'est vite retrouvé en fait à être une petite vingtaine de vignerons engagés là-dedans, à faire les premiers salons, à se montrer. Et là, l'Alsace a commencé à refaire parler d'elle dans le petit milieu.
Sur ce courant-là, sur cette arrivée-là, sur cette évolution-là, sur ce dynamisme, j'ai envie de parler de dynamisme aussi.
En fait, comme je disais avant, pourquoi, parce que finalement, moi, je suis allé aussi vite, c'est que je n'avais pas le poids historique et peut-être culturel, classique, traditionnel alsacien. Et en fait, toute cette génération qui arrive, en fait, ils s'en détachent. Ils ont certainement vu leurs parents trimer pour vendre 6 bouteilles. Ça ne correspond pas forcément à leur goût et à leurs convictions. Ils cherchent une autre voie et ils s'en détachent. C'est finalement assez normal. Hein. Chaque génération quasiment a voulu faire autrement que celle d'avant et amener sa patte, en fait. Donc c'est ce qui se passe et c'est trop bien. C'est trop bien parce qu'en plus, nous qui avons... Alors, ça fait, on n'est pas si vieux que ça, hein. J'ai que 10 millésimes derrière moi, donc ils nous mettent un bon petit coup de pied aux fesses. Ça oblige à pas rester sur des acquis et à continuer à avancer dans ce qu'on fait. C'est la réflexion autour des vignes, c'est la réflexion autour des vinifs. On en parlera plus tard, mais il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. En fait, il n'y a pas de limite. Enfin, si, les siennes, mais sinon, il n'y a pas de limite.
Justement, comme dirait Clément Gup, le vin se fait dans les vignes. Quel est l'impact du bio sur la vigne?
Sur la vigne, c'est simple. D'un coup, tu commences à voir de la vigue, en fait, dans tes sols. Tu vois une vitalité. Ta vigne s'exprime différemment. Rien que visuellement, l'esthétique de ta vigne change. Et puis, elle a plus de vitalité, moins de vigueur, mais plus de vitalité. Globalement une résistance meilleure aux maladies et puis une qualité de raisin qu'on n'arrive pas à avoir en conventionnel. Alors après il y a bio et bio, hein, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu appliques simplement le cahier des charges bio que tu vas avoir une expression du terroir, ça suffit pas, il faut avoir une réflexion un peu plus poussée Moi, je pense que ça passe par le non-travail du sol, avoir un couvert permanent, remettre l'activité biologique des sols qui était quasiment à l'arrêt, faut la remettre en route. C'est la compréhension aussi du pied de vigne, son fonctionnement. Et tout ce que je vous raconte, en fait, c'est des évolutions très très récentes, hein, sur le domaine. Hein. On va dire que ça fait 4-5 ans maintenant qu'on met petit à petit en place ces choses-là. Ça se fait pas du jour au lendemain parce que le vignoble les vignes et la terre étaient habitués à un certain équilibre. À un moment donné, quand tu lui changes cet équilibre, ça peut désaxer certaines choses, d'avoir des grosses baisses de vigueur, donc des grosses baisses de production, des sols qui deviennent trop chargés en carbone, donc Voilà, il y a plein de choses à mettre en place petit à petit. Et puis nous, on a encore tellement de choses à apprendre et à appréhender que c'est le début d'une aventure, en fait. Et puis dans 10 ans, ce sera encore différent, on aura encore progressé. On apprendra encore des choses parce qu'il y a des gens qui auront réfléchi à ça. Et puis, merci à eux. Hein. Y a tous ces gens qui réfléchissent sur la taille, des Marceau Bourdarias, des Konrad Schreiber qui réfléchissent au sol. Enfin, je veux dire, s'ils ne sont pas là, nous, on met 20 ans à faire ce travail, si on arrive à le faire. Voilà. Donc, c'est pour aller encore plus loin aussi sur notre façon de travailler. Donc, pas plus de travail du sol. Tout simplement pour essayer de s'inspirer du fonctionnement d'une forêt. Si ici on fait rien, on a une forêt. Donc le fonctionnement d'une forêt, c'est le sol est jamais à nu, toujours couvert. Il y a jamais, en fait, ce qui se passe, c'est surtout qu'il y a jamais le soleil qui vient taper sur le sol. Et ben une forêt, elle c'est le plus gros producteur de biomasse sur Terre sans que l'homme n'y intervienne. Et nous, en produisant, on arrive à peine à sortir quelques kilos de raisins d'une parcelle. Alors, l'idée, c'est quand même de s'inspirer de ça, mais il faut pas oublier qu'on est quand même sur une production. On n'a pas la vigne en plein milieu de la forêt. Voilà. Donc, ça, on peut pas aller jusqu'au fonctionnement d'une forêt, mais on peut essayer de s'en inspirer pour réussir à avoir une production finalement peut-être la plus importante possible, tout en ayant une expression du terroir. Et cette expression du terroir, elle va par un couvert végétal. C'est obligatoire. Alors, si, ça c'est encore une chose que je travaille, mais de moins en moins, on ne fait plus que un passage et demi par an. Donc là, il va bientôt se faire. Donc j'accepte en fait qu'il y ait un peu d'herbe sous mon cavaillon. Et je pense que bientôt, l'étape suivante, on n'est pas encore prêt. Mais c'est je fauche une fois par an le cavaillon, donc même plus de travail du sol, du cavaillon. Voilà. Mais là, comme je disais avant, c'est des questions d'équilibre et il faut que la vigne, là, elle commence à rentrer dans l'acceptation du fait qu'il y ait de l'herbe, en fait, tout le temps. Voilà.
En Alsace, les pieds sont peut-être un peu plus élevés. Toi qui étais en Côte-du-Rhône, est-ce que tu penses que c'est le genre de pratique qui pourrait se démocratiser sur tout le territoire ou...
À partir du moment où tu peux passer avec un outil sous le pied, oui. Tu vois, j'étais en visiter le Beaujolais il y a pas si longtemps. Quand tu as les pieds qui sont à 5 cm du sol, il y a une limite technique. Bon, la plupart des vignerons dans le Beaujolais maintenant sont en train de remonter un petit peu leurs pieds pour pouvoir aller travailler sous leurs pieds. Ouais. Donc, c'est adaptable partout. Après, je vais pas parler du vignoble du sud parce que on va me dire les contraintes hydriques sont pas les mêmes et tout ça, mais en réalité, quand est-ce qu'on a le plus, paradoxalement, alors qu'on a toujours appris que l'eau et tout ça, moi je me souviens 2018, vraiment les premières années avec beaucoup beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, pardon, quand il faisait 40 degrés à 10h, 11h, tu venais chez nous à 8h, t'avais les pieds mouillés, quoi, parce qu'il y avait de l'herbe, il y avait un couvert, il y avait un paillage. Et donc, tu avais les pieds mouillés. Donc, cette eau, au lieu de s'évaporer, s'évapore en partie, hein, c'est toujours pareil, elle reste quand même en partie au sol. Et elle est mieux retenue. Et puis, le jour où il y a un orage, surtout, elle pénètre. Et elle ne finit pas en bas de la parcelle. C'est cette vieille rengaine agricole où on disait que debinage vaut un arrosage. C'est une pure connerie, quoi. C'est vraiment, vraiment une pure connerie. D'abord parce que tu bousilles ton sol, donc tu n'as plus du tout de vie. Donc, tu n'as plus moyen, en fait, de retenir de l'eau dans ton sol. À la première pluie, il y a tout qui est en bas. Et surtout sur un sol sec. Voilà. Donc, en fait, tout simplement, hein, les chiffres moyens de capacité du sol à retenir l'eau, sur un sol totalement nu, on parle de 5 mm à l'heure. Sur un sol enherbé, on parle de 80 mm à l'heure. Bon. Et les 80 mm, ils pénètrent, en fait, au lieu de se barrer. Donc là, ils vont servir à tout le monde. Vraiment. Donc, la vigne, en fait, elle a un fonctionne. Alors, c'est une liane, mais qui, par beaucoup d'aspects, fonctionne comme un arbre. Donc, on va pas me faire croire qu'une espèce comme ça ne puisse pas résister à un peu d'herbe, en fait. Ça ne fonctionne, c'est pas possible. Donc, c'est à nous, en fait, de revoir notre de façon de l'appréhender. Donc ça passe par la taille, ça passe par la plantation, ça passe par le choix du matériel végétal, ça passe par plein de choses comme ça. Donc en fait, on remet en question toutes les étapes, toutes. Il n'y en a pas une sur laquelle on se pose pas de questions. On ne peut pas le faire tout d'un coup, mais petit à petit, bah, cette année, on a changé notre modèle de taille. On était depuis maintenant 4 ans, 5 ans sur tout le domaine en taille poussard. Puis on se rend compte en fait que ça suffit pas, parce que la taille poussard ne pense qu'au flux de sève. Bah, à force de regarder un petit peu sur c'est tout bête, hein, les réseaux sociaux, les échanges qui se passent entre vignerons, les groupes qui se créent. Bon, ben, des gens comme Marceau Bourdarias, dont je parlais avant, entre autres, hein, je parle de lui parce que c'est le plus connu, on réfléchit à une autre façon de tailler, parce que il faut remettre en perspective pas que le flux de sève, mais aussi les mises en réserve, la capacité du pied à abandonner un flux parce qu'on lui demande de l'abandonner. Il y a plein de choses qui entrent en compte, et en fait c'est tout bête, hein, tout est inspiré de travaux de Reynald Desemeris qui date de 1890. Et le gars, juste par la taille, en fait, avait réglé le problème du phylloxéra. C'est pas lui qu'on a écouté, parce que c'était plus simple de greffer, parce qu'on savait déjà greffer à l'époque. C'était plus simple de greffer que d'apprendre à tout le monde à tailler correctement. Donc bon, et ben nous, en fait, on est en train de s'inspirer très très largement de ces travaux pour retrouver une vitalité régulière, des rendements réguliers, une vigne qui résiste mieux aux maladies, une vigne qui n'a plus d'escarres, une vigne qui est en bonne santé, en fait. Et si elle est en bonne santé, ben, au niveau du sol, ça se passera beaucoup mieux, ça sera plus simple de vivre en symbiose avec l'herbe, parce qu'elle va vivre en symbiose avec l'herbe. On sait que pour que tout ce réseau-là fonctionne ensemble, il faut des mycorhizes, donc il faut des champignons. Pour qu'il y ait des champignons, ben, il faut toujours un couvert végétal, on revient toujours à la même chose. Et après, en fait, moi, on m'a appris, là, ça va faire, ça va, c'était pas hier, hein, mais pendant mes études, donc fin des années 90, 2000, j'apprenais à faire des tableaux d'amendement azoté. On m'a toujours parlé d'azote, on m'a jamais parlé de carbone. Alors qu'en fait, finalement, le carbone, c'est ce qui sert de nutriments au sol.
On entend que l'azote.
Les semis, maintenant, d'avoir de l'azote, parce que moi, ça but, c'est d'être sur de l'auto-fertilité, et que tu es allé tellement loin que... Enfin, que tu es allé tellement loin, c'est l'historique, hein, qui veut ça. La fauche, le travail du sol à outrance, les désherbants, fait qu'en fait, il n'y a plus de vie dans le sol. On a des sols très pauvres en matière organique stable. On a beaucoup de carences. Donc du coup, en fait, pour remettre en route des sols, ça ne va pas se faire en quelques années, c'est long. En fait, il faut apporter beaucoup de carbone. Mais si on apporte beaucoup de carbone, le risque, c'est d'avoir des fins d'azote. Parce que la flore microbienne qui va dégrader le carbone, en fait, elle a besoin d'azote pour se développer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'elle a mangé tout le carbone, bah, elle a eu à manger, mais elle est là en grande quantité. Et après, ben en fait, pour pouvoir continuer à proliférer, en fait, ben il va y avoir une carence azotée. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, dans nos apports, on met des légumineuses et des pour pouvoir avoir pas mal de d'azote, pour fixer en fait l'azote, tout simplement, un peu plus au sol. Exactement. Alors que demain, quand on aura un équilibre, une auto-fertilité, en fait, le carbone sera facilement dégradé, la vie microbienne sera en équilibre aussi, et l'azote, en fait, il est là, hein, il est juste dans l'air. Hein. C'est le principal composé de l'air, c'est de l'azote. Hein. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on cherche. Est-ce qu'on va y arriver je l'espère bien. Puis si on n'y arrive pas, en fait, par des petits réajustements, on arrivera à gérer ça, et c'est pas très grave, c'est la main de l'homme, en fait, hein, qui vient faire ça. Alors, on est dans une exploitation de la terre, et la main de l'homme a toute son importance. Donc, mais il faut le faire en bonne intelligence et en bonne observation de ce qui nous entoure, quoi, et du fonctionnement naturel de nos sols.
Du coup, est-ce que tu t'imagines à un moment atteindre un idéal dans les pratiques de viticulture d'ici 10-15 ans, ou au contraire, la remise en question, c'est quelque chose qui t'enthousiasme au quotidien ?
Ah, je pense qu'il faudra plus que 10-15 ans, ouais. Ouais. Je pense qu'il faudra plus. J'espère que peut-être à la fin de ma carrière, j'aurai peut-être enfin des sols.
Partir en apothéose.
Peut-être, ouais. Mais entre-temps, il y aura peut-être le réchauffement climatique qui posera d'autres problématiques. Rien qu'en travaillant comme ça, on arrive à compenser en partie le réchauffement climatique, en tout cas. Ouais. Ouais. Et puis, à un moment donné, on peut se dire, les études les plus optimistes sur des modèles agricoles efficients, en fait, en agriculture, on pourrait être une des bonne solution de l'excès de carbone, c'est parce qu'en fait, on est capable de séquestrer le carbone dans le sol. Ce qui est sa place, en fait. C'est dans le sol. Enfin, peut-être qu'on devrait tous réfléchir à toute l'agriculture dans son ensemble à séquestrer du carbone. Parce qu'en plus, c'est cool, ça marche très bien pour la culture. C'est de la nourriture presque gratuite et facile à avoir. Quoi. Mais après, bon, on pourrait rentrer dans des débats plus psychologiques. Moi, je me souviens que les premières discussions que j'avais avec Jean-Marc Dreyer, c'était, il me disait, le plus dur, c'est de rien faire. Mm-hmm. Ah bah ouais, c'est le plus dur. Parce que quand t'as un joli tracteur dans le hangar avec une belle charrue, bah t'as envie de l'utiliser. Et puis une fois que t'es arrivé au bout de la rangée, t'as la satisfaction d'avoir fait quelque chose, en fait. Et en fait, il valait mieux rien faire, la plupart du temps. Il valait mieux rien faire. Donc, c'est ça, en fait. Hein, l'agriculture, elle est devenue très mécanisée. Et en fait, on est en train de faire un peu marche arrière là-dessus, parce qu'il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui s'adaptent. Nous, par exemple, à partir de cette année, il y a la moitié des traitements qui seront faits au quad. Notre plus gros problème pour avoir une vie suffisante, c'est l'étassement de sol. Et moi, je me rends compte que même si on fait gaffe au passage en tracteur, mine de rien, mon tracteur plus le pulvé plein, on arrive à 4 tonnes sur 6 roues. 4 tonnes sur 6 roues. Pendant la période de traitement, on va passer tous les 10-15 jours. Le sol, il n'a pas le temps de s'en remettre. Un pulvé et un quad, plus moi sur le quad, on arrive à 800-900 kilos. Là, il est sur 8 roues. Donc là, le sol, il arrive à s'en remettre. Donc juste en faisant ça, j'ai réglé la moitié de mes passages en tracteur de l'année. Et en plus, c'est parfois les pires passages, parce que quand il faut les traiter, des fois, on peut pas toujours être très très regardant sur l'état d'humidité du sol, quoi. Donc voilà. Mais en fait, il y a des outils qui arrivent. Voilà, le quad, les pulvés. Il y a 10 ans, des pulvés pour quad, il n'y en avait pas forcément, quoi. Donc,
il y en a qui reviennent, les chevaux.
Il y en a qui reviennent au cheval. Il y a plein de choses qui se passent, quoi. Ouais, ouais.
De la bio, c'est plus facile maintenant qu'il y a 10-20 ans, du coup.
Ouais, ouais. Oui, c'est plus facile parce que les outils existent. Qu'il y a forcément plus de monde qui le fait. Donc, s'il y a plus de monde qui le fait, il y a plus d'expérience et d'expertise et d'échange.
Finalement, les réseaux sociaux, de ce côté-là, c'est une très bonne chose.
Ah ouais, très bonne, ouais. Ouais, carrément.
Et on parlait de l'évolution végétale. Quelle est l'évolution animale sur justement ce changement de pratique?
Tu veux dire par là qu'on a des petites...
J'étais un peu harponné par le chant de l'oiseau qui était pas loin. Est-ce que justement il y a un retour de la faune, de papillons, de ce genre de choses?
Alors il faudrait la quantifier, mais elle y est forcément. Quand si vous revenez dans 2 mois, on a l'herbe au niveau des hanches. Donc forcément, il y a plus de vie là que dans la vigne à côté qui est fauchée.
Forcément.
Voilà. Et puis après, mine de rien, alors il commence à y avoir une prise de conscience aussi au niveau des communes, parce que là, par exemple, il y a un talus un peu plus loin, ils ont planté des arbustes.
D'accord.
Voilà, par exemple. C'est tout récent, hein. c'est cette année, quoi.
Oui, chez les conventionnels, il y en a beaucoup là qui communiquent sur ça, le fait de remettre un peu de biodiversité, un peu d'ombre, un peu.
Il y a le Pré Lattenberg, ils ont fait un grand événement, ils ont planté des fleurs, je crois, sur le Pré Lattenberg.
Non, mais il se passe des choses dans plein de communes là, grâce aussi beaucoup à l'association Evive d'Alsace. Mm-hmm. Il y a beaucoup beaucoup de choses qui se font. des nichoirs qui apparaissent dans les vignes, des choses comme ça. Donc on va dire que c'est vraiment bien. Mais après, il n'y a pas si longtemps, tiens, je suis tombé sur une photo du 1950 du Westerberg. Tu le regardes aujourd'hui. Tous les collègues, quand ils viennent dans le vignoble ici, surtout quand ils viennent du Haut-Rhin, ils se disent « Waouh, vous avez des arbres ici et tout, c'est génial quoi !» Tu prends une photo d'ici 1950, c'était blindé d'arbres, tous les talus, il y avait des arbustes, c'était génial quoi. Mais il y a encore vraiment du travail quoi, il y a vraiment vraiment du travail.
Est-ce que tu sais peut-être plus les vignerons du coup qui sont mis en avant par rapport à l'appellation ? C'est un peu le cas actuellement du vin d'Alsace, non ?
Ah bah là, les vignerons qui fonctionnent, on parle d'abord de leur nom avant de dire que c'est des vignerons alsaciens quoi. Mm-hmm. C'est aussi pour ça que certains d'entre nous réfléchissent vraiment à sortir de l'appellation aussi. C'est que finalement, on n'a pas besoin pour vendre nos vins. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas revendiquer le lieu où sont faits nos vins. Parce qu'en plus, ils ont une réalité économique. Parce qu'ils sont bien vendus. Ils sont vendus beaucoup plus cher que la moyenne. Ils ont une réalité d'amateurs, de qualité, puisque on les retrouve dans les belles tables étoilées de plus en plus, on les retrouve dans tous les coins où ça boit du vin, où ça en boit, parfois avec excès, mais toujours avec joie.
Surtout avec joie.
on les retrouve dans ces endroits-là, en fait, nos vins. Et ces endroits-là sont de plus en plus nombreux. Parce qu'en fait, derrière ces vins-là, il y a une histoire. Il y a souvent un terroir, et c'est ce qu'on veut en fait, c'est ce qu'on veut savoir. Quand on veut se nourrir, quand on veut se faire plaisir, on a envie qu'il y ait un lien, on a envie de peut-être rêver de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, on a envie de faire travailler son imaginaire, sinon c'est d'une tristesse absolue quoi. Mm-hmm. Sinon, c'est du produit industriel. Et puis là, en fait...
Tu réfléchis pas.
Non, il n'y a pas besoin. Surtout,
tu ouvres juste ta bouche.
Surtout, on ne te demande pas de réfléchir. Ouais, parce qu'on le fait pour toi. Donc voilà.
Donc tu es plutôt optimiste sur l'évolution du vignoble alsacien dans les prochaines années ?
Alors, je suis optimiste sur son état actuel à rester à 15 000 hectares. Et c'est sûr, je vois pas comment ça va pouvoir tenir. Je suis optimiste sur le fait qu'il y ait plein de choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se créer. On n'a jamais vu autant de petits négoces se créer, on n'a jamais vu autant de vignerons concernés par leur métier se poser des questions, s'essayer à faire des choses, que ce soit en cave ou dans les vignes. Et puis, c'est génial parce que on parlait juste avant de vous poser la question de savoir comment je voyais les choses avec l'arrivée de Einhardt, j'ai envie de dire mais vive la diversité, parce que de toute façon même si Nicolas et Théo et nous sommes pas sur les mêmes terroirs, on est sur les mêmes terroirs pardon, on fera pas forcément toujours les mêmes vins. Mm-hmm. Parce qu'on n'est pas les mêmes personnes, c'est juste ça, il faut accepter cette diversité. Et ma vision par exemple du Westerberg qui est sous nos pieds, elle est peut-être un petit peu différente pour Nicolas et Théo. Et qui a raison?
Je pense que les deux ont raison.
Ah, voilà.
Après, il y en a certains qui vont dire que le Westerberg, c'est le terroir, et il y en a d'autres qui vont dire non, c'est le Schwarzberg, le terroir. Oui, parce qu'il y en a qui voudraient, à Régis, aimerait bien que le Schwarzberg soit un grand cru. Et le Westerberg, grand cru, non ?
Grand cru dans l'état actuel d'un cahier des charges grand cru, non ? Je m'en fous, en fait. Mais si demain, on revoit la norme, on revoit le cahier des charges, comme était en train de le faire le cercle Burger, on y va, ouais.
Qu'est-ce que tu changerais là dans le cahier des charges du grand cru ?
Les cépages. Il y a un moment où en fait.
Est-ce que le fait que le Pinot Noir ne soit pas un grand cru, est-ce que c'est une anomalie ? Moi, personnellement, je trouve que je trouve ça bizarre.
Mais pas que le Pinot Noir, le Sylvaner, et je trouve aussi que c'est une anomalie que le Gewürz et le Muscat soient dans le grand cru. C'est quand même dingue, en fait, en Alsace, on a des cépages uniques qui sont pour beaucoup des vrais marqueurs de terroir. C'est-à-dire qu'à travers ces cépages, le terroir peut s'exprimer. Et on a mis dans les grands crus deux cépages aromatiques qui vont avoir une variation d'un terroir à l'autre, forcément, mais qui vont avoir tellement, il y a tellement de force sur l'aspect aromatique de ces cépages que c'est d'abord ça qui domine, et après peut-être une notion de terroir. Ok, d'accord. Moi, on a du Westerberg, sur le Westerberg, on a du Muscat. pendant depuis 2014 jusqu'à 2017. On l'a fait en nature, machin. Ouais, pendant 4 ans, j'ai eu l'impression de faire le même muscat. Super bon, très précis, avec de la salinité, une très jolie expression de ce cépage. Mais c'est d'abord du muscat avant d'être du Westerberg. Et on rouvre des 2014 ou des 2015, c'est toujours du muscat. Et après, oui, il y a quelque chose en plus. Donc on peut sentir que ça vient d'un terroir. Mais alors que ça devrait être l'inverse. On devrait d'abord se dire... moi, ce qui m'amuse beaucoup quand j'ai vraiment des pointures, des connaisseurs qui viennent goûter, forcément tu leur fais goûter des choses un peu à l'aveugle. Et puis sur le cépage, ils sont perdus. Parce qu'il y a d'abord un terroir en fait qui a parlé. Il y a d'abord l'expression d'un terroir. Et après, ben, quand on parle du cépage, oui, d'accord, on peut faire des ponts, on peut faire des rapprochements sur un aspect variétal, mais ça s'arrête là. C'est d'abord le terroir qui a parlé.
Je trouve ça plutôt pas... T'as évoqué rapidement le négoce. Je sais que c'est assez mal vu dans le monde du vin nature par certaines personnes, le négoce. Toi, tu as une vision qui est plutôt positive ?
T'en as un toi-même ?
Bah, j'en ai un moi-même, donc j'ai... Quel lancement !
Je ne voulais pas en parler tout de suite, mais c'est bon.
Bah, en fait, ça dépend comment il est fait. C'est toujours pareil. On peut décrier le négoce quand il n'est pas vertueux.
Le tien, il est vertueux. En tout cas, on connaît les gens avec qui...
Alors, en fait, il est vertueux. Il faut pas oublier une chose avec le négoce. C'est le gros du travail, c'est pas toi qui le fais. C'est cultiver du raisin, c'est le plus gros du travail. C'est presque le plus risqué, c'est le plus engageant. Donc du coup, il faut jamais oublier qui a fait le raisin. Ce qui souvent, je trouve, dans le monde du négoce, est un peu oublié, parce que j'aurais peut-être 2-3 critiques à faire sur le monde du négoce. Ça, c'en est une. La deuxième, c'est aussi parfois le prix, en fait. Le prix auquel c'est acheté, et surtout le prix auquel c'est revendu. Des fois, pour savoir à quel prix sont achetés les vins, et quand tu revois les mêmes bouteilles dans le commerce, qui a fait la culbute, quoi ? Donc c'est pour ça aussi que parfois le négoce peut être un peu décrié, c'est qu'il est, même dans la nature, il n'est pas toujours super redistributeur, quoi. Voilà. Mais après, Nicolas qui passe... Donc voilà, mais après tout le reste, c'est quand même une super chose, quoi, le négoce. Il y a des gens. Le métier de vigneron, c'est faire du raisin. Déjà, faire du raisin, c'est un métier. C'est faire du vin, c'est déjà un métier en soi. Le vendre, c'est déjà un métier en soi. Et puis, quatrième chose, il faut faire harmoniser ces trois métiers ensemble. Donc il faut être gestionnaire, entrepreneur quelque part aussi. Voilà. Donc il faut avoir toutes ces casquettes. Bah, c'est peut-être pas donné à tout le monde, et puis c'est pas grave, il y a des gens qui sont brillants pour faire du vin, il y a des gens qui sont brillants pour faire du raisin, alors chacun a sa place, quoi. Voilà.
Et toi, tes forces, c'est dans les trois dans lequel tu te sens le plus à l'aise?
En fait, je vais adorer faire les trois, mais là actuellement les vignes, c'est vraiment passionnant, quoi. C'est vraiment ce qui se passe, c'est parce que c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est là où peut-être aussi on maîtrise le moins les choses par rapport à la cave, où on peut toujours trouver un moyen d'intervenir avec les connaissances qu'on a et les techniques qu'on a, autant dans les vignes. Et puis c'est un temps long, les vignes, c'est long, voilà. Alors on verra après, on discutera dans la cave, c'est aussi un temps long, enfin moi je le vois comme un temps long, mais les vignes, c'est encore plus long. On discutait l'autre jour avec Sophie Sophie Kumpf des plantations. Sophie Kumpf, elle est à la retraite dans 15 ans. Si elle veut, dans 15 ans, elle peut prendre sa retraite. Ce qu'on plante aujourd'hui, c'est pas elle qui le verra. Et moi, ce que je vais planter demain sur un joli terroir, on va dire que la fleur de l'âge de la vigne, c'est pas moi qui la verrai. Donc il y a déjà une notion.
Transmission.
Ouais, où tu te dis. En fait, non, tu te poses même pas la question, tu te dis je vais le planter. Parce que c'est juste dans l'ordre naturel des choses. Si les aînés n'avaient pas planté ce Gewürz qui a quasiment 70 ans, on pourrait pas récolter un Gewürz dans cette parcelle. Donc voilà, non, mais je m'éclate bien dans les vignes là. La réflexion autour du travail qu'on y fait, je trouve que c'est passionnant. Et puis la vigne, elle réagit. La vigne réagit vite, les sols réagissent, mettent du temps à réagir, mais avec la vigne, on voit les choses arriver. Donc c'est super intéressant.
C'est ce que j'allais dire. Allez, on va à la cave.
Créé en 97, très fonctionnel, très très grande. On a cette chance-là de pouvoir avoir cet outil, mais qui est trop petite pour faire du vin nature.
Pourquoi?
Si on revient au début, là, on va déjà boire les 2020 en nature, ce qui pour moi est compliqué à accepter, à être d'accord avec ça plutôt, parce que je trouve qu'il faut les élever en fait ces vins. Et plus que les autres encore, ils ont besoin d'être élevés. Donc, ici, on fait des élevages longs. Parfois contraints, forcés, parce que les vins mettent du temps à fermenter. Ils mettent parfois plus d'un an à fermenter. Et puis, souvent voulus, parce que on va goûter après hein, des vins sur des qualités à peu près identiques, des maturités à peu près identiques. Quand il y a juste un an de plus d'élevage, c'est plus le même vin. Et j'ai même envie de dire, ça devient du vin. Ce qui ne l'est pas avant, pour moi. Donc, d'accord. Du coup, pour pouvoir se stocker, il faut de la place. Et puis, on est un peu à l'étroit au niveau de la cuverie. Là, on ne peut plus en rajouter.
Laisser le temps au temps.
Exactement. Voilà. On est en train de le laisser dehors dans les vignes. Alors, il faut qu'on le fasse aussi dans la cave. Et puis, en plus, réellement, on a les terroirs. C'est vrai qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé des terroirs. Mais le fait d'avoir deux vignobles... Alors quand je dis deux vignobles, en fait, il y a juste la vallée de la Bruche qui passe au milieu, mais ça change tout, en fait. On est dans les deux cas sur une base calcaire, argilo-calcaire, mais avec des marnes à Molsheim, donc des terres assez puissantes, assez riches, plus froides, et avec un peu de limon sur Rosheim, et une orientation plus sud, donc plus exposée. Et un poil plus sec aussi. On a souvent un petit peu moins d'eau ici qu'à Molsheim. Et c'est deux vignobles très différents. Autant à Molsheim, on a le grand cru Brudertal déjà, pour commencer, ce qui n'est déjà pas une mince affaire. On a aussi une jolie diversité de terroirs. Mais j'ai un sentiment d'homogénéité sur Molsheim. Quelque chose de. Si demain on devait faire une communale à Molsheim, ce serait très évident pour moi. Mais une communale avec beaucoup de caractère, beaucoup d'identité. Je serais bien incapable de faire une communale à Rosheim. Parce qu'il y a beaucoup de diversité d'exposition, de coteaux, de microclimats sur Rosheim. Ce qui fait que, en fait, aujourd'hui, on va parler du Weingarten, on va parler du Salmestal, du Westerberg, du Frontberg. On parlera demain aussi de la Burk, parce qu'on a fait de la complantation dans la Burk. Et en fait, on ne parle pas encore, parce que je ne vous parle pas encore du Fleckstein, je ne vous parle pas encore du Reisfat, voilà, il y a plein. En fait, je pourrais presque séparer le Fürsweg, j'oublie aussi. Je pourrais presque séparer toutes les parcelles de Rosheim. En tout cas, ça aurait un sens au niveau de l'expression qu'on en a. Et à Molsheim, on a le Grand Cru Brudertal. On a un lieu-dit qui s'appelle le Selmlie Puroxerois. C'était sur le Selmlie. On l'a arrêté, mais on va le reprendre parce qu'en fait, on a un peu de Sylvaner qui est planté dans le Selmlie. Et je voudrais qu'on fasse un Auxerrois Sylvaner sur le Selmlie. Je trouve que ça serait beaucoup plus marquant pour ce terroir. Voilà. Et puis, j'ai oublié encore sur Rosheim, l'Altenberg.
Ah il y en a Rosheim aussi.
Il y en a partout. C'est comme les Weingarten.
Il n'y a pas un Kirchberg aussi.
Non.
En fait, ce serait un vin qui serait accessible et apprécié et ressenti par tout le monde, en fait.
Si le grand vin, c'est un vin que quand tu le sers sur la table... Tout le monde s'arrête, on parle du vin. Alors ouais, Westerberg, ça peut servir à ça. Ouais. Ouais, ouais. Après, il y a des vins on boit une bouteille, on a refait le monde, mais on n'a pas parlé du vin. Mais on a bu une bouteille, on s'en est pas rendu compte. Mais il a participé en fait au débat en fait, mais pas directement. On n'a pas parlé de lui. Et ça j'aime bien aussi en fait. Et peut-être qu'il y a plus qu'à, c'est plus ça en fait. Tu vois, c'est le lien en fait sur une table. Voilà, c'est le lien entre les gens. Westerberg, il faut qu'on parle de lui, en fait.
Bon, comme on dit par chez nous, let's get it. Alors là, on est, c'est gourmand, ça donne envie d'en boire des litres.
Je trouve ça très bon, ça très salin, ça reste en suspension, entre guillemets, je trouve ça très salivant aussi. Ça appelle à un bretzel un peu salé derrière, je trouve.
Ah, c'est l'heure de l'apéro en Alsace. Hein. Tu sors de la messe, tu prends l'apéro.
Mais pas dans le sens trop facile non plus. C'est pas mon idée.
Ah oui, non. Mais...
un peu salin, c'est très bon.
C'est un Riesling. Hein. Riesling, c'est mon Riesling générique. Hein. 2020. Alors en fait, on a beaucoup modifié nos façons de vinifier sur ce millésime. Parce que mine de rien, depuis maintenant 2-3 ans, on se retrouve avec des problématiques fermentaires qui sont des fermentations qui ne se finissent pas ou qui sont languissantes. Et donc, plutôt que d'essayer de relancer les vins avec des pieds de cuve le millésime suivant, c'est peut-être bien qu'ils réussissent à finir de fermenter d'eux-mêmes. Donc ce qu'on a fait à partir de ce millésime, c'est qu'on a passé toute la cave en pré-fermentaire en macération. Donc on fait une macération très courte, 2-3 jours. Ça démarre, la fermentation démarre et on décuve. Ce qui fait que par exemple les Auxerrois avaient fini de fermenter avant la fin des vendanges. Même il y a 10 ans, quand il y avait encore des reliquats de la culture précédente où les vins étaient quand même plus riche en azote, et enfin les moûts étaient plus riches en azote, donc faire monter plus vite. Non, en un mois, c'était pas possible. Là, les Auxerrois ont fini de fermenter, le Riesling a fini de fermenter, et donc c'est des vins qui sont prêts pour un élevage aussi long qu'il faudra faire. Mais c'est une bonne approche, c'est une bonne technique. Et puis surtout, en fait, l'idée, c'est surtout pas de marquer macérer, ce qui est pas le cas là. Je me mets au défi quiconque de me dire que c'est un vin qui a fait une macération. Tout. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que contrairement à un pressurage direct, même si en effet on ne marque pas, ça fait ressortir des amers très salivants. Et alors ça aussi, c'est vachement intéressant parce que le sucre, on a un support pour en bouche pour jauger de la sucrosité. On en a qu'un. Les acides, si ma mémoire est bonne, si je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on en a 3 ou 4 pour différencier les types d'acides. Les amers, on en a plus d'une vingtaine. Okay. Donc en fait, des amers, encore une fois, on nous a appris que l'amertume, c'était pas bon. Qu'est-ce qui revient en cuisine actuellement? C'est les amers.
Ouais, dans la bière, hein, c'est vraiment ce qui est.
Exactement. Donc sur les lactofermentations, les choses comme ça, sur les choux, on va chercher les amers. Et en fait, parce que la mer peut être particulièrement salivant. Et je trouve qu'avec cette façon-là de vinifier, on ressort ces amers.
En cave, c'est vrai qu'auprès des clients, le mot amer et le mot acide, c'est deux mots qu'il ne faut pas prononcer, quoi, parce que ça peut être très très mal interprété et de façon très péjorative. Ça fait peur à beaucoup de monde, c'est clair.
L'acidité fait peur, ouais. Et
sucre résiduel un peu. Alors que si c'est bien fait, si voilà, il y a plein de.
Ouais. Carrément. On est agriculteur, mais artisan aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le métier d'artisan, c'est d'avoir un produit brut au départ et le transformer, en fait. Donc c'est une forme. Artisan, il y a le mot art dedans. Donc c'est une forme d'art, en fait. Un peintre, il a une toile et il a de la peinture. C'est produit brut. À la fin, il y a quelque chose il n'y a que lui qui peut le faire, en fait. Quand on est vigneron, en fait, c'est pareil. Donc, là-dedans, il y a la main de l'homme qui est vachement importante. Et malheureusement, ça a été oublié, alors même que c'est les fondamentaux de l'appellation d'origine contrôlée. C'est les trois piliers, c'est le sol, le climat et l'humain.
Ça me rappelle quelque chose.
Et en fait, on a oublié l'humain. Bon, j'ai oublié le sol, le climat, il est là, mais on a oublié.
C'est peut-être 30 ou 40 ans où. Que l'humain qui a été mis en avant et il y a eu un contre-coup.
Ah, on ne l'accepte plus dans sa diversité. C'est-à-dire que, quoi, je vous disais avant que ce qui était vachement cool, c'est que, avec Jean-Marc derrière et Nicolas et Théo Weinhardt, on est proches, mais on ne fait pas les mêmes vins parce qu'on a des personnalités différentes. Pourtant, on est au même endroit. On s'appelle Rosheim ou Rosenwiller, on s'appelle Alsace. Et tout le monde est content de savoir qu'on s'appelle Alsace aussi quelque part. Et parce que ces gens qui sont contents, ils acceptent cette diversité et cette complexité. Jamais avoir peur de la complexité, c'est pas grave. On n'est pas obligé de tout comprendre, tout savoir, tout appréhender, tout aimer. Voilà. Moi, ce qui est vachement bien quand il y a de la complexité, c'est de me dire que je finirai toujours par trouver quelque chose qui me plaît.
S'il n'y a pas cette complexité, bah, il y aura toujours... si ça ne me plaît pas dès le départ, ça ne me plaira jamais. Tu vois, non.
C'est un débat. De se dire, est-ce que le client, le consommateur final, il va avoir peur de la complexité, il faut simplifier, ou est-ce qu'au contraire, la diversité, c'est bien? Enfin, je sais qu'on est, on est tous d'accord là autour de ce micro, mais il y en a beaucoup qui ont voulu peut-être uniformiser pour que ce soit lisible et... voilà, que le vin d'Alsace, il est toujours le Pinot Gris, tant et tant de sucre, le Gewürztraminer, tant et tant de sucre. Et...
Dans les débats actuels pour Alsace 2030, ce qui a été lancé par, par le Civa et l'AVA, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire de l'Alsace en 2030, quasiment l'une des seules choses qui ressort, c'est l'Alsace, c'est trop compliqué, c'est pas assez lisible. Ouais, dans un supermarché, mais pas dans une vision d'une région avec une appellation d'origine contrôlée. Donc, qui met en avant ses terroirs, qui met en avant son histoire, sa culture, et pas un produit standardisé, quoi. Donc, si c'est pas standardisé, il y a de la complexité. On se vante toujours, et à juste titre, d'avoir en Alsace, certainement sur 120 km, une des plus grandes diversités de terroirs au monde, ce qui est vraiment le cas. Bah ouais, mais on l'a, mais on ne sait pas en parler, quoi. Donc, et si on veut en parler, il faut accepter que sur toute cette diversité de terroirs, il n'y ait pas que les mêmes vins. Et surtout, des vins différents. Et ça, tu le multiplies, tu mets un coefficient multiplicateur qui est le vigneron, t'as jamais fini. Mais génial, c'est génial, c'est comme une bonne nouvelle, ça. Se dire qu'en fait, c'est sans fin. Et puis, ça recommence chaque année. Donc, pourquoi ça devrait nous faire peur, en fait?
Ça, c'est une vision minoritaire, du coup, actuellement. Cette recherche de diversité, cet enthousiasme.
Elle est clairement minoritaire, mais je pense qu'elle est de moins en moins.
Je pense qu'elle commence à être majoritaire en l'année.
Je sais pas. Mais en tout cas, elle est de plus en plus... cette minorité de plus en plus visible.
Peut-être pas majoritaire, mais je pense qu'il y a une prise de conscience aussi qui va se mettre, non? Enfin, je pense.
Ouais, ça viendra de plein d'endroits différents, du consommateur.
Ça viendra du consommateur, mais pas quand...
Si, tu sais, les changements de génération... Moi, je suis là depuis 10 ans. J'allais au début au réunion du syndicat viticole de Molsheim. Ça se passait bien. C'était classique. Voilà, j'ai envie de dire... réunion classique du syndicat viticole. Maintenant, avec le changement de génération, donc Jérôme et Marie Neumeyer, Henri Kess, Julien Beller, chez Kligenfuss aussi, il y a et Guillaume qui arrive, donc ça bouge un peu les lignes, il commence à faire des semis. Il y a aussi Philippe Heitz, qui est un peu l'ancien de la bande, mais qui nous suit et qui a une... qui nous porte aussi. Il y a une émulation depuis 2-3 ans à Molsheim qui est géniale, géniale. Donc, et là-bas, personne n'a peur, en fait. Personne n'a peur. Moi, aujourd'hui, le Grand Cru Brunnerthal, je n'ai pas le droit de l'appeler Grand Cru Brunnerthal parce que ma vision du Grand Cru n'est pas acceptée. Pas par mes collègues vignerons qui font du Brunnerthal, mais par le décret d'appellation qui interdit l'assemblage des cépages. Moi, je trouve que sur le Grand Cru, les trois cépages qu'on a, les Riesling, le Pinot Gris et le Gewürz, quand on les met ensemble, quand on les vinifie ensemble, sur ce terroir, je trouve que la marque du terroir est très visible, très présente. Voilà. Mes collègues, je sais qu'il y en a un ou deux qui s'est essayé à ça, mais en tout cas, ils sont très ouverts à ça, en fait. Ça ne veut pas dire que ce que je dis, ce que je fais, et il n'y a que ça qui est vrai sur ce terroir. Mais en tout cas, c'est une vision de ce terroir. Pourquoi s'en priver?
Et je pense que, tu disais tout à l'heure que vous étiez de plus en plus à penser à sortir de l'appellation. C'est plutôt, alors, c'est une envie de faire pression un petit peu, ou c'est vraiment une... je sais pas si c'est vraiment une volonté commune.
Alors, si on avait en tête de dire qu'on sortait de l'appellation pour faire pression, on se tromperait. Ça, parce que ça marcherait pas. Non, ça marche pas comme ça, quoi. Non, c'est pour se sortir de contraintes, de dégustation d'agréments qui, de toute façon, les vins sont systématiquement rejetés parce que c'est un système archaïque.
parce que les vins ne sont pas dégustés comme dans le contexte dans lequel ils devraient l'être. Et puis c'est archaïque au sens, ma vision de la dégustation d'agrément, elle est toute simple en fait. Il ne devrait plus y en avoir. Il ne devrait plus y en avoir. Moi, demain, je sors un vin qui est daubé, je ne le vends pas. Je ne le vends pas. Il va se faire. Mes clients, ils vont m'appeler, ils vont me dire, mais qu'est-ce que t'as foutu là? On te le renvoie. Donc, je, en tant que vigneron ou chef d'entreprise, je vais dire, je vais mettre un vin daubé sur le marché. Mais il ne trouvera jamais preneur. Elle est là, la réalité.
Est-ce qu'un vin daubé ne trouverait pas preneur? Un vin qui a une souris aujourd'hui, on sait qu'il y a certains marchés où ça peut se vendre. Peut-être pas tes clients habituels, mais je pense qu'il y a toujours un endroit où tu vas trouver quelqu'un qui va dire, oh putain, c'est trop bon.
Non, mais tu as raison, je suis d'accord avec toi. On estime ça être un défaut. C'est un défaut pour certains, ça n'est pas pour d'autres. Moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais je respecte ceux qui l'apprécient, quoi. Ceux qui trouvent ça bon. Pourquoi ça pourrait pas être bon? Enfin, qui a décidé un jour que c'était pas bon? On a un autre.
Que tu n'oserais pas. C'est quoi un vin daubé, du coup?
Quoi, ouais.
Hein, sur le marché avec 2,5 g de vol. C'est pas encore du vinaigre, c'est plus du vin, mais franchement, bah, c'est pas bon, quoi. Tu vois, c'est là, réellement, on va trop loin, quoi. Bon, il se vendra jamais, quoi. Tu vois, là, je vais dans l'extrême, je vais dans le truc un peu excessif. Mais on peut en effet discuter de la définition d'un vin daubé, d'un vin. Avec une esthétique qui ne correspond pas à une certaine norme, ouais. Bon, je sais pas, enfin, à un moment donné, il faut accepter que on en revient toujours à la même chose, hein, à la diversité, il faut accepter ça. C'est pas grave. C'est pas grave si mon voisin fait un vin que j'estime pas être représentatif de mon idée du vin d'Alsace. Je le laisse exister. Moi, je trouve qu'un vin qui a 80 mg de SO2 total, bah, il goûte le soufre, il goûte pas autre chose. Mais c'est juste mon avis. Si je suis personne pour dire à quelqu'un qui l'a acheté, qui le trouve bon, que c'est pas bon. C'est tout. Voilà. Donc quand on a globalement, nous, cette vision-là du vin, avec les collègues du nature, ce qu'on demande, c'est qu'on ait cette vision-là pour nous aussi, quoi.
Liberté, du coup, de chacun de faire un peu comme il l'entend. Parce qu'on entend aussi un autre son de cloche de ceux qui veulent sortir de l'appellation vin d'Alsace, mais pour créer une autre appellation vin d'Alsace libre ou quelque chose comme ça, où on aurait... Ouais.
Mais celle du cercle Bourget est vachement intéressante, parce qu'en fait, elle propose un socle commun de valeurs environnementales, sociales, de terroir, voilà. Et après, chacun, donc le socle commun, tu y adhères. Donc il est forcément, s'il y a un socle commun, il y a des restrictions, en fait. Hein, tu ne peux pas faire que ce que tu veux. Mais derrière, il y aurait une possibilité de dire, ben, moi, je vais plus loin sur tel et tel aspect. Voilà, par exemple, je fais le labour au cheval, je mets jamais de soufre dans mes vins, voilà, tu vois. Mais c'est propre à toi, voilà. Et on accepte ça, bah, à condition que ça respecte le socle commun, les conditions du socle commun. Si on met des valeurs environnementales dedans, tu peux pas dire, ok, j'adhère, et puis après, je fais du désherbage total. Ça marche pas. Il y a une réflexion autour des terroirs, la notion de terroir, la notion communale, qui est hyper importante aujourd'hui, je pense. Et qui n'empêche pas demain de dire, ah ouais, tu peux faire du Riesling, fais du Riesling. C'est variétal, machin, il n'y a aucun problème avec ça. Mais ne revendique pas un terroir. Voilà. Mais pas de problème. Avec un cahier des charges plus large, forcément plus large, parce que c'est des vins qui sont vendus, qui seront vendus moins cher aussi. Mais ça, c'est vachement intéressant. C'est une réflexion qui est vachement intéressante parce qu'elle permet de sortir par le haut. Et surtout, elle est. Ce qu'on peut reprocher au système actuel, c'est qu'il est archaïque et c'est une grosse berta, quoi. C'est pour changer une virgule, il faut 10 ans pour changer une virgule d'un décret. Donc là, on parle d'Alsace 2030, on est en 2020
Ils ont commencé à en parler en 2020, 2030, en 10 ans. Je sais pas, moi, quand je vois le chemin qu'on a fait nous en 10 ans, et quand je vois le chemin qu'a fait le vignoble alsacien en 10 ans, c'est beaucoup trop long. Mais c'est trop long, mais parce qu'en fait, ils sont obligés de prendre ce temps-là pour pouvoir justifier de certaines choses. Il faut pouvoir en discuter, en rediscuter. Il faut que ça remonte à l'INAO. Faut que ça... C'est sans.
C'est trop compliqué.
Et en 10 ans, ben en 10 ans, il y a trop de choses qui ont changé.
Voilà. Déjà, quand tu vois en 10 ans comment ça a évolué.
Ben voilà. Et donc, cette réflexion du cercle Burger, là où elle est intéressante, c'est qu'elle permet ce mouvement, cette pensée rapide et cette adaptation rapide aux choses, aux changements climatiques. Je veux dire, si on attend sur un. Peut-être que demain, il faut qu'on change de système de taille pour être plus adapté au changement climatique, par exemple. Bon, ben, si c'est pour faire du cordon et que le cordon aujourd'hui est 10 ans nouveau pour changer la norme, peut-être changer de cépage, adapté à des cépages et qui résistent mieux à la chaleur. S'il faut nouveau 10 ans pour. Et 10 ans, c'est un minimum. S'il faut nouveau 10 ans pour prouver qu'en fait, oui, il faut aller plus vite que ça, il faut pouvoir aller plus vite que ça. Ouais.
Si tu avais un cépage que tu devais planter.
Après, moi, je rêve de planter du savagnin. Voilà, parce que ça fait partie des vins que je trouve quand on veut goûter des savagnins dans le Jura. Puis c'est un vrai marqueur de terroir quand on va goûter les savagnins de Ganva, de Caillé, de Élémentaire, de Tournelle. Ils sont tous dans des villages un peu différents. L'expression qui a à travers ce cépage, des terroirs à travers ce cépage est magnifique, quoi. Quel grand cépage, ouais. Et puis on a un grand cépage en Alsace.
Riesling.
Un autre.
Sylvaner.
Un Altsylvaner. Personne ne nous l'envie, malheureusement. Mais alors, quel grand cépage, quoi.
J'ai l'impression que la nature lui a redonné, enfin, cette secours nature lui a redonné un souffle.
Mais on peut en faire ce qu'on veut, en plus. On peut faire un vin facile, léger, très variétal. On peut en faire un vin de terroir. On peut en faire un vin en surmaturité, même, si on veut.
Ouais. Même le pinot noir a évolué, hein.
Le pinot noir, ouais, ça aussi, c'est hyper intéressant, parce que si on prend juste nous ici, entre le Weingarten et le Salmestal, qui sont les deux terroirs dont on parle en pinot noir ici, ouais. Bah, y a un kilomètre, 900 mètres à vol d'oiseau entre les deux. Mais ils n'ont rien à voir. C'est pas du tout monté pareil. Le Weingarten va être sur des tanins très très fins, très délicats, jamais accrocheurs, des arômes vraiment typiques de cassis, parfois un peu même animal. Voilà. Quand le pinot noir Salmestal va avoir une structure beaucoup plus accrocheuse, beaucoup plus puissante, beaucoup plus démonstrative. À 900 mètres, je suis vinifié de la même façon, cultivé de la même façon. Et encore, au milieu, on est en train de récupérer des pieds de noir sur le coteau qui s'appelle l'Altenberg. Et l'Altenberg fait le lien entre Weingarten et Westerberg. Et je suis persuadé qu'on aura encore autre chose.
Et tu disais aussi, alors je remondis sur ce que tu disais en entrée de cave, complantation. Tu as commencé à faire ça, à mener cette réflexion, et je crois que tu as même planté.
Ouais, sur un terroir qui s'appelle la Burke, qui est face au Westerberg, donc un terroir intéressant plein nord, sur une toute petite pente. Hein, c'est pas un gros coteau, mais voilà, et très 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 calcaire. Et à l'origine, on avait du Sylvaner sur cette parcelle, qui, elle était au bout de cette vigne, mais une année sur deux, ça donnait le meilleur Sylvaner du domaine, quoi. C'était assez impressionnant. Et puis au bout d'un moment, on a fini par l'arracher et on a replanté, on a fait de la complantation de Pinot Blanc et Sylvaner. Enfin, Sylvaner et Pinot Blanc, plutôt. 60% de Sylvaner et 40% de Pinot Blanc. Je peux pas encore te dire, j'ai pas encore sorti un seul raisin de cette parcelle. Mais j'y crois beaucoup, ouais. Ouais, sur certains terroirs, la complantation est très intéressante. Par exemple, je n'imagine pas de complantation sur le Westerberg.
Est-ce que tu peux nous parler de ce petit pinot noir?
Eh ben, c'est Weingarten. Weingarten, comme son nom l'indique, c'est une parcelle qui est collée à Rosheim, où on n'a que du pinot noir sur ce terroir.
Et en fait, depuis le début, elle est mise à part, cette parcelle. C'est peut-être un des premiers terroirs qu'on a commencé à revendiquer. C'est toujours particulier, tu vois, l'identité de ce pinot noir, elle est... C'est toujours très particulier parce que il y a pas de tanin, alors qu'il y a une grosse matière, et ça paraît presque un peu léger finalement au niveau de la structure, mais ça paradoxalement ça peut couvrir des plats très épicés, ça va au-dessus d'une côte de bœuf, ça c'est impressionnant comme vin. Et en plus c'est vraiment taillé pour la garde. Là on boit 2019, mais on devrait même pas en parler en fait.
Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est vrai que c'est impressionnant, tu as ce côté très, un peu animal, mais très net au nez. En début de bouche, tu as cette texture dont tu parlais qui est quand même assez imposante, mais tu finis sur une note plutôt végétale, plutôt fraîche, et tu passes vraiment par plusieurs stades, quoi, donc c'est assez intéressant. Tu as un petit côté un peu épicé aussi, je pense que c'est pour ça que ça marche bien avec les plats épicés. Mais c'est un vin assez, je trouve, assez complexe quand même, mais très, très ambivalent en fait, c'est assez étonnant.
À la gourmandise du fruit, on a le côté caractère un peu animal, ouais, c'est...
Ça me fait peculier des coordonnées GPS, si quelqu'un a envie de voir la parcelle, comment elle est tenue, je pense que c'était ça le but.
Ouais, tu vois où c'est positionné, quoi, si tu es pas dans le coin. Ouais. Mm-hmm. Ouais, c'est des vins de lieu, donc je trouve que c'était... un moyen rigolo de voir le lieu si t'es pas à côté, quoi.
En tout cas, moi qui ne buvais plus de pinot noir, c'est
surtout que c'est dans la diversité, c'est que c'est pas juste en bleu en maric,
surtout ça, ouais.
Et puis c'est vachement intéressant,
c'est ça. En tout cas, c'est une belle découverte. C'est vrai que j'avais jamais bu de pinot noir de chez Compfemier. Chose faite.
Qui est très très adapté, souvent. Et celui-là est assez intéressant. Et là, il y a les barbecues prochainement qui vont sortir. Il y a justement suffisamment de matière pour pouvoir tenir des choses épicées.
On n'a pas la complexité d'un Weingarten, mais on a suffisamment de structure et de matière. En fait, l'infrarouge, c'est surtout fait à partir d'une parcelle qui est à Molsheim, okay. Donc sur les terres. Plus puissante, assez riche, et donc ça confère quand même au pinot noir une certaine matière, quoi. Ouais. Voilà.
C'est parfait, ça. Alors, un vin sans étiquette, un vin mystère. Comme il y a marqué sur l'étiquette, le vin sont de grands mystères.
Parler des choses qu'on peut faire, qu'on peut pas faire. Si on prend juste l'exemple des macérations, moi je trouve que c'est un exemple peut-être le plus marquant des 5-6 dernières années. C'est-à-dire que quand... ça fait quoi, depuis le début des années 2010 qu'on commence à parler des macérations. Il en existait avant, mais on n'en parlait pas beaucoup. Depuis le début des années 2010, ça a été décrié, ça a été « ouais, c'est pas du vin d'Alsace, c'est inadmissible de faire ça au Gewürz, au machin ». Et aujourd'hui, en fait, réellement, comme le Gewürz, le Muscat, enfin, surtout le Gewürz ne se vend plus, le Pinot Gris, c'est compliqué, il y a une réflexion réelle, hein, ils ont envie d'aboutir, je crois, au niveau des instances dirigeantes pour faire entrer les macérations dans les décrets d'appellation. Si on regarde pas longtemps en arrière, c'est les vignerons nature qui ont mis ça sur le devant de la scène. Les macérations, et aujourd'hui, et tant mieux, génial, c'est une très bonne nouvelle. Les vignerons plus classiques, plus conventionnels, s'en accaparent la technique, et tout va bien, très bien, super. Là, tu me posais une question tout début dans les vignes sur la remise en question, pourvu qu'elle soit perpétuelle, quoi.
Je pense que c'est comme ça qu'on évolue aussi.
Le jour où je ne me remets plus en question, je vais faire un autre métier.
Je pense que c'est ça. Hein.
Ouais.
Je
vais faire
cuisinier. Tant autre chose qui arrive.
Même lui, il doit se remettre en question.
Oui.
Le cuisinier.
Ah oui, mais justement, s'il n'y a pas un cuisinier qui se remet en question, tu manges toujours la même chose, quoi.
Ça me fait penser à Christian Binaire qui nous disait, avec toutes les jeunes générations, moi je goûte beaucoup parce que bah, ils arrivent, ils sont là, ils sont prêts. Et moi, j'ai pas... en fait, je pense qu'il a aussi peur de passer à côté de quelque chose. Et c'est justement cette réflexion-là, il vous pousse aussi à continuer à évoluer, à progresser. Et... Alors, qu'est-ce que c'est que ce vin? Alors, moi, le nez me plaît beaucoup. Il y a de l'évolution que j'adore et tu sais que, combien j'aime ça. C'est vrai que c'est ce que toi tu aimes parfois un peu moins.
Oui, peut-être. C'est un peu moins ce qui me plaît, les notes trop évoluées. Mais là, il y a un petit côté épicé que tu retrouves au nez aussi qui est assez intéressant. Qui...
présent, ouais, y a... Par contre, en bouche, c'est explosif. Hein. On a une énergie là qui est arrivée. Waouh, c'est impressionnant la vivacité, l'énergie là. Il m'a réveillé là d'un coup là. C'était mais c'est magnifique. C'est un peu pour ça que qu'on fait ce genre de choses. Hein.
Super bon, t'as un côté qui va t'envelopper tout le palais. Et puis en même temps, des notes un peu épicées qui te réveillent un petit peu tout ça. Enfin, c'est impressionnant.
Côté beurré qui est bien présent.
Velouté et en même temps, tu as des aspérités un peu épicées. Je trouve ça hyper intéressant.
Moi, je suis baba là. C'est un mi-bon. Je peux avoir ça dans mes bons.
Une belle longueur et une belle digestivité. Enfin, dans le sens où ça se boit très bien quand même. Quoi. C'est pas juste quelque chose de riche et de lourd. C'est quand même, ça reste très, très...
Ouais, ça reste digeste, gourmand... moi, je serais parti sur un Riesling un peu plus vieilli. Non. Attends.
Bah, par rapport à toutes nos discussions, je partirais peut-être sur un assemblage Gewürztraminer Sinfaner, j'en sais rien. Un peu assez. Plus de 3 ans, ouais, ça c'est sûr que c'est pas un vin jeune, avec une macération, donc peut-être une des premières macérations que tu as faites, je ne sais pas. Mais j'ai plus ce côté.
Alors
sur les Sommeliers sans avoir le Floral Hand Tool, mais...
c'est bien parce qu'il n'y a rien de tout ça en fait.
En fait, son regard est en train de se dire c'est ni Riesling ni Gewürztraminer ni Sylvaner. Mais vas-y, je te laisse.
C'est en 2015. C'est 2015 sur un terroir qui s'appelle le Frontberg. Le Frontberg, c'est juste derrière le Westerberg. T'as la colline qui fait Westerberg qui est plein sud. Et derrière, tu as la colline qui monte vers le qui est une orientation sud-est, qui remonte un petit peu vers Dorlisheim, et qui est beaucoup plus froid que le Westerberg, beaucoup plus exposé au vent, terre un peu plus puissante, un peu plus riche que le Westerberg. Et on est sur des vieux Sylvaner.
Okay.
Donc c'est un pur Sylvaner 2015, qui a fait 3 ans d'élevage en barrique et demi-muit non houillé.
Okay.
Il n'y a jamais eu de voile, mais il y a une patine oxydative qui s'est mise en place. Il reste 18 grammes de sucre. Donc, c'est un vin doux. Enfin, doux, ouais, demi-sec. Je ne sais plus quelle est vraiment sa catégorie, s'il doit en avoir une. Et ça a été mis en bouteille en août 2018, donc, du coup. Et donc, c'est en bouteille depuis 2 ans et demi maintenant. Et voilà. Donc, c'est ce que ça donne, en fait, quand on laisse le temps au vin. D'abord l'oxydatif plus le sucre plus le zéro soufre, ça fait que le sucre est hyper appétant. Plus le temps, on ajoute encore de la salinité et de l'appétence au vin. Et puis bah, on découvre autre chose, on découvre un autre monde aussi, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude aussi dans les vins nature, mais qu'on n'a pas l'habitude tout court dans les vins, parce que pour que ça marche il faut que tout ça soit réuni. Puis surtout que, bah, bêtement, hein, c'est, au bout de 3 ans, même quand il reste du sucre, tu le mets en bouteille, tu prends un risque hein, qu'il reparte en fermentation. Et ça n'a pas été le cas là, donc... Et il ne devrait pas, d'ailleurs. Au bout de 2 ans et demi, tout va bien.
En tout cas...
Bon. Mais c'est, ça explique certaines choses que tu ressens en bouche. Ouais, effectivement, le sucre, ce côté un petit peu rond, mais il y a tellement de vivacité que... Et puis le côté oxydatif est très, très intégré, ça fait plus... note évolutive que vraiment oxydation déviante, quoi. C'est super intéressant.
Mais c'est vrai que c'est... j'aurais pas pensé à Sylvaner tout seul. En fait, je l'avais en tête, je me dis, mais non, pas possible.
Il y a un côté épicé, mais C'est peut-être le sucre finalement qui donne ce côté-là, non? Côté un peu.
Ouais.
Ouais, mais ouais, non, mais c'est impressionnant de voir comment finalement ce cépage qu'on trouvait un peu finalement est révélateur de gourmandise, de terroir, de.
Merci. Sur agir avec ce que je retiens beaucoup et ce que j'apprends beaucoup avec ce vin, c'est que, encore une fois, en lui laissant le temps de l'élevage, le temps de la bouteille, sur un vin qui, au départ, dans nos habitudes de dégustation, nos habitudes avec du sucre, en fait, devrait être totalement déséquilibré. Et en lui laissant ce temps, en ayant ramassé des raisins mûrs, la bonne maturité, ça, sur un joli terroir, il y a autre chose qui prend le dessus. On n'est plus dans une analyse très cartésienne de l'acidité. C'est l'acidité qui porte le vin. Non, c'est juste la vibration, l'énergie qui porte le vin. Et ça, il n'y a que le temps et les terroirs aussi, forcément, mais qui permettent cet équilibre. Sinon, en fait, pourquoi est-ce qu'il est toujours là et que je ne l'ai pas encore vendu? C'est que ça fait... En fait, il y a un an, c'était pas tôt. C'était dans les genoux. Et quand je l'ai mis en bouteille, c'était pas dans les genoux. C'était un superbe équilibre. Et puis, il s'est ramassé à la mise, mais ça, on s'y attendait. Et puis, maintenant, hop, ça revient et l'équilibre et commence à être vraiment chouette, quoi. Et quand est-ce que ça s'arrêtera? On ne sait pas. On n'a pas de recul là-dessus.
En tout cas,
ça peut aller loin, ouais.
En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui va surprendre, plaire ou... peut-être aussi déplaire, hein. Il y en a qui... Mais ça va surprendre.
Ouais, ça va surprendre.
Je pense que tu vas faire un effet, waouh.
Même parce que ça te déplairait autant que ça, ou alors peut-être qu'on a l'habitude de goûter des choses un peu, ou d'être un peu trop ouvert, mais je pense qu'il peut être plaisant, ouais, pour tout le monde.
Je fais goûter, là. D'abord, ça surprend tout le monde, parce que je dis pas ce que c'est, et puis qu'on s'attend pas à avoir un profil de vin oxydatif, avec du sucre, enfin, tout ça, mais... Mais ça fait bon coup à chaque fois, quoi. Ouais.
C'est bon number. Bon, on passe au moment sauvage. Un moment sauvage, des petites questions, réponses rapides. Si tu devais prendre un de tes vins pour une rencontre en amoureux, ce serait quoi?
Hédoniste.
Hédoniste. Après l'amour?
Riesling Westerberg.
C'est quoi le dernier vin qui t'a fait un effet waouh? Tu as ouvert la bouteille ou tu as partagé ou... C'est pas forcément un des tiens, hein. Ça peut être justement un vigneron que tu affectionnes ou tu t'es dit waouh.
Clos Jaugeron Margaux 2014. La grande cuvée de chez eux. C'est un des plus grands Bordeaux que j'ai bu. Et pourquoi encore une fois ça me plaît? Le vigneron, il a pris son temps. Il a pris le temps d'élever son vin en barrique et puis après en bouteille. Et il l'a proposé quand il était prêt. Moi, je dis, mais chapeau, bravo. Et à la fin, on a une émotion. Parce que le vigneron est allé au bout du travail, du cycle. C'est utopique, hein. Il faut avoir les reins solides économiquement et compagnie, hein, mais... Et la place de le faire, mais quand tu peux le faire, c'est plus la même histoire, quoi.
C'est quoi le dernier livre, le dernier bouquin, la dernière série, le dernier film où tu t'es dit j'ai envie d'ouvrir une petite bouteille de vin là et m'éclater avec?
Oh punaise. Alors le dernier truc que j'ai découvert je lis pas beaucoup en fait, je me suis abonné à une revue qui s'appelle Socialterre. J'invite tout le monde à découvrir cette revue parce que il y en a pas beaucoup par an, il y en a 6. Ils prennent le temps de travailler chaque article et sous un angle jamais donneur de leçons, toujours très très bien fondé et très fouillé. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette revue.
Si tu n'avais pas été vigneron, tu aurais été quoi? Cuisinier? Donc en fait, le côté terroir a toujours été là pour toi. Parce que finalement, en vrai cuisinier, le côté artisan.
Finalement, je ne suis pas allé très loin. J'ai toujours grandi là-dedans. Comme je disais avant, je suis petit-fils de, de vignerons et neveux de vignerons. Donc tous les étés, tous les ans, on allait là-bas. Donc forcément, j'ai baigné dedans. Et le vin, donc, du coup, a une dimension particulière dans la famille. Mais la cuisine aussi, parce que maman cuisine, ma grand-mère cuisinait beaucoup, mes deux grand-mères cuisinaient. Je ne suis pas allé chercher très loin, ce n'est pas très original finalement, mais ça m'a... Voilà, après, à un moment donné, je me suis quand même dit, cuisinier, tu peux le faire à la maison. Bah, tu peux cuisiner à la maison. Faire du vin à la maison, c'est un autre débat. La vie est assez longue pour pouvoir faire deux métiers dans sa vie, je crois. Si un jour, il faut en faire un deuxième, mais voilà.
Tu ne seras pas vigneron toute ta vie ?
Ah si, peut-être, je ne sais pas.
Le vigneron cuisinier.
Bah, c'est possible.
je vais revenir, il y aura une ferme auberge.
Je me demande si ça n'a pas déjà été fait, peut-être dans l'autre sens, ça a déjà été fait, des cuisiniers qui deviennent... Ouais.
En Alsace, il y a Mince à Ribeauvillé, le Clos Libaud, Sébastien Chouard, il fait ça.
Il fait ça, ouais.
Bon, c'est des terres flambées, c'est pas de la cuisine très très recherchée.
Il n'y avait pas les grands pots.
Chez soi,
il y avait...
très très touristique comme ça. Et faire déguster ses vins avec des produits un peu de produits.
C'est pas les grands-parents de Jean-Michel Daïs qui faisaient du vin et qui avaient un bistrot. Bon, on remonte à... Il me semble. Hein.
J'ai le souvenir d'une anecdote, effectivement.
Il y en a beaucoup. Ouais. C'est quoi ta clé du bonheur ?
Les copains, la bonne bouteille. Vraiment la bonne bouffe. Je suis chiant sur la bouffe. et un petit peu de sport de temps en temps. Ouais. Il y a encore un dernier point qui me tient à cœur et dont on n'a pas parlé. C'est que si je peux faire tout ça, c'est parce qu'en fait, il y a du monde avec. Et là, on a une équipe géniale avec Jean-François qui est là depuis 2016. Vincent qui nous a rejoint l'année dernière. Et puis Sophie qui s'articule au milieu de tout ça, qui a beaucoup évolué, beaucoup grandi. C'était pas si simple parce que elle était issue d'un monde classique dont on a parlé tout au long de la séance, et qui a réussi à se laisser faire aussi par plein d'aspects et qui a réussi à accepter que le vin nature c'était bien. Voilà. Donc, en fait, c'est aussi pour ça qui est intéressant, c'est que c'est finalement peu importe d'où on vient, on doit pouvoir y arriver, en fait, à s'ouvrir. Mmh. Ça ne veut pas dire le vin nature, mais à s'ouvrir juste, à changer parfois de paradigme. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faudra tous qu'on change de paradigme. C'est obligatoire. Voilà.
Le plus tôt possible. Moi, j'ai juste envie de finir sur ces bonnes paroles, parce que je trouve que c'est juste magnifique. C'était juste le bon moment. Merci, Adrien.
Merci, Julien. Merci, Mickaël.
Je pense que les terrasses vont réouvrir, les musées vont réouvrir à un moment donné. Je pense que la vie va reprendre petit à petit. En tout cas, on le souhaite. Merci Julien pour ton accueil.
Avec plaisir, merci d'être venu. C'était chouette.
On a mis un peu de temps, mais finalement, c'est une bonne chose.
Ouais, c'est bien.
C'était bien aussi. En tout cas, on va continuer comme tous les autres à vous suivre. Et nous, on soutient les bonnes énergies, l'AVLA... Et on sera toujours là derrière vous. Si on peut vous soutenir, on le fait. Parce que nous, on aime ça. Et puis, on aime bien partager aussi. Comme je dis toujours, buvons modérément. Buvons libre et buvons Alsace. Askilt. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément. Partagez ce breuvage entre vous, mais surtout, ne mettez pas votre vie en danger.